Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, mon HP va craquer, la psychiatrie incurable, parents pauvres de la santé, mobilisation des personnels et des familles aujourd'hui, souffrance à tous les étages et récits glaçants dans un instant. Le blues des patrons réunis à Davos, jamais ils n'ont été aussi pessimistes, l'année s'annonce en noir, selon un bon tiers d'entre eux. Sa vie sous la menace et son récit dans un livre, Philippe Val est votre invité tout à l'heure dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, l'ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter qui publie « Tu finiras clochard comme ton Zola » aux éditions de l'Observatoire et dans le grand entretien tout à l'heure. Dialoguez avec lui 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter.
À la une également, un traité et des infox, traité franco-allemand signé tout à l'heure à Aix-la-Chapelle, pourtant pas de quoi tomber de sa chaise. Parcoursup mode d'emploi, c'est l'heure de s'inscrire pour les études supérieures. La neige, quelques flocons et quelques difficultés en Normandie et dans le nord, en Ile-de-France, la N118 est sous haute surveillance. Et puis attention, prodige, direction Melbourne, à la fin de ce journal où le jeune Tsitsipas vient de se qualifier pour les demi-finales.
France Inter.
Des patients qui délirent dans les couloirs ou qu'on attache sur des brancards, des malades livrés à eux-mêmes en dehors de toute structure de soins. La psychiatrie en France est-elle en train de faire naufrage? Manque de lits d'hôpital, manque de personnel, manque de suivi. Des psychiatres, des soignants et des familles appelleront à l'aide aujourd'hui, place de la République à Paris, avec chacun des histoires de violence et de souffrance, comme celle de cette jeune femme schizophrène dont la mère raconte le long parcours d'errance à Véronique Julia.
La schizophrénie, il y a 12 ans, Corinne ne savait pas vraiment ce que c'était. Alors évidemment, quand Sophie, sa fille adolescente, a commencé à avoir un comportement étrange, elle n'a pas compris.
Elle nous demandait si on ne pouvait pas la voir à travers les murs, si on ne pouvait pas lire ses pensées, enfin bon.
Il a fallu 3 ans d'errance avant qu'un diagnostic soit posé et 2 ans encore avant que soit donné à Sophie le bon traitement. Entre-temps, il y a eu des visites chez des psys, des épisodes à l'hôpital, mais sans qu'un suivi soit réellement proposé.
Jamais personne n'est venu prendre de ses nouvelles, ou savoir comment ça allait. Son état s'est dégradé.
Quant aux multiples séjours à l'hôpital, Corinne en garde, pour certains, le souvenir d'un vrai cauchemar.
On avait l'impression d'être dans une prison, dans des locaux dégradés, aucune occupation, elle devait peut-être parler au psychiatre une fois par semaine et puis c'est tout. Il n'y avait que des adultes. Une des personnes qui fréquentait son service passait son après-midi à manger le contenu des cendriers.
Et quand elle retournait chez elle, Sophie multipliait les fugues.
Elle faisait des fugues toutes les 2 semaines. C'est nous qui allons la chercher. La seule chose que le psychiatre avait à dire, c'est qu'il faut attendre qu'elle se mette en danger pour pouvoir la faire hospitaliser.
Aujourd'hui, grâce aux efforts de sa famille qui s'est démenée pour trouver les solutions, Sophie va mieux. Mais la maladie lui a fait prendre beaucoup de poids sans qu'aucun médecin ne s'en préoccupe. Là encore, c'est Corinne qui devra trouver comment gérer cet effet secondaire.
Agnès Buzyn elle-même, la ministre de la Santé et médecin, déplore l'état de la psychiatrie en France. Elle vient de débloquer 50 millions d'euros pour le secteur. Elle souhaite que tous les généralistes fassent un stage en psychiatrie pendant leur internat d'ici 2022. Et faudra-t-il prescrire des antidépresseurs aux grands patrons réunis à Davos pour leur forum annuel? Ils n'ont pas le moral. À quelques semaines du Brexit et après des mois de décrochage à la bourse, un patron sur 3 mise sur une année de croissance pourrie, selon le baromètre mondial publié chaque année à la même époque. Delphine Simon est à Davos pour France Inter.
Dans la station alpine quadrillée par la sécurité, les patrons ont le moral en berne. Ils sont 6 fois plus pessimistes que l'an passé. Et ce qui les inquiète, c'est la croissance mondiale qui ralentit. En cause, le protectionnisme et le risque de guerre commerciale. Bernard Guénier, président de PwC France.
Les grands patrons se disent, mais compte tenu de la situation, je reste prudent, je ne sais pas forcément où je vais investir. Donc un certain pessimisme, un certain repli sur soi et une très grande prudence.
La mondialisation n'est pas forcément heureuse pour ces patrons qui remarquent une montée des inégalités, source d'instabilité politique et sociale, comme le montre la crise des gilets jaunes en France, le Brexit au Royaume-Uni, dit-il.
On voit le constat que font les chefs d'entreprise que ceux qui ne bénéficient pas de cette croissance disent stop, écoutez-nous, il faut qu'on change un certain nombre de règles du jeu.
La crise des gilets jaunes qui vaut à la France de voir sa prévision de croissance légèrement revue à la baisse par le FMI, moins 0,1% cette année. L'organisme demande aux dirigeants de faire le nécessaire pour répondre rapidement au mécontentement qui s'exprime. À Davos, Delphine Simon, France Inter.
Aujourd'hui, c'est Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien ultralibéral et d'extrême droite qui tiendra la vedette. C'est lui qui prononcera cet après-midi le discours inaugural du forum de Davos. Et voilà un grand patron patron dont le moral est au plus bas, décidément à peu près au niveau du tatami de sa cellule de prison. La dernière demande de remise en liberté sous caution de Carlos Ghosn vient à nouveau d'être rejetée par la justice japonaise.
Il est 8h06, que de fantasmes autour du traité franco-allemand signé tout à l'heure à Aix-la-Chapelle.
L'Alsace va repasser sous gestion allemande, a alerté un élu Debout la France. Une mise sous tutelle comme une trahison, signée Macron, a repris Marine Le Pen. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ce texte signé ce matin par le président français et la chancelière allemande, si ce n'est de timides rapprochements politiques, économiques et militaires? Vraiment rien de spectaculaire, Bertrand Galichet, dans l'avenir de la relation franco-allemande. Le traité va même moins loin que ce qu'avait espéré Emmanuel Macron.
À 4 mois des élections européennes, ce traité d'Aix-la-Chapelle tombe à pic pour rappeler les valeurs fondamentales de l'Europe et tenter de faire contrepoids à ceux qui les critiquent. Sauf qu'entre les lignes apparaît le déséquilibre de la relation franco-allemande. Des demandes fortes exprimées par Emmanuel Macron dès son discours de la Sorbonne en septembre 2017 et des réponses de Berlin très en deçà des ambitions françaises. Les déclarations d'intention foisonnent, par exemple pour construire le socle franco-allemand d'une défense européenne, mais sans grande conséquence en raison de la réticence du Bundestag. À l'international, la priorité donnée par la diplomatie franco-allemande à la mission de l'Allemagne comme membre permanent du Conseil de sécurité ressemble à un vœu pieux. De même, les velléités de rapprochement économique se heurtent à la situation très différente de chacun des deux pays, qu'il s'agisse d'emploi, de commerce extérieur ou de dette publique, ce qui affaiblit au plan européen la portée politique de ce traité, fortement voulu par la France et auquel l'Allemagne semble seulement consentir.
Bertrand Galichet, l'Alsace cédée aux Allemands, l'Europe aux migrants. Pour lutter contre les fake news, les infox, en bon français, l'application WhatsApp a décidé de limiter la diffusion des messages de ses utilisateurs, désormais bridés à 5 personnes maximum, pour éviter les boucles d'infos délirantes. Parcoursup deuxième, clap de début pour la plateforme d'orientation post-bac. Les terminales peuvent commencer à s'inscrire en rentrant leurs 10 vœux et sous-vœux. 14 000 formations sont disponibles. Avec des nouveautés, Sonia Princet, pour éviter les écueils de l'an dernier.
La procédure sera plus rapide. Les candidats recevront leurs réponses à partir du 15 mai, un peu plus tôt que l'an dernier. Et ils auront 5 jours pour accepter les propositions la première semaine, puis 3 jours à partir du 20 mai. Les délais sont raccourcis. Les élèves ont répondu en moyenne en 2 jours et 10 heures l'année passée. La nouveauté, ce sont aussi des points d'étape. Après le bac et jusqu'au 19 juillet, un élève pourra être accompagné et faire le point sur ses choix s'il n'a validé aucune proposition. Un répondeur automatique sera mis en place après le bac également. Pour ne pas avoir à se connecter tous les jours, un candidat peut préciser son vœu préféré et sa réponse sera envoyée automatiquement s'il est accepté dans cette formation. Autre changement, les jeunes qui se retrouvaient en attente derrière des milliers de candidats n'avaient aucune visibilité. Cette fois-ci, chaque formation indique le rang du dernier appelé l'an dernier pour donner une idée des chances d'être pris. Enfin, le critère géographique est assoupli pour les élèves des académies de Créteil, Versailles et Paris. Ils peuvent postuler sur toute l'Île-de-France, ce qui répond en partie aux recommandations du défenseur des droits qui souhaite plus de mobilité, de mixité et de transparence.
Voilà, et les terminales ont jusqu'au 14 mars pour s'inscrire. Parcoursup, mode d'emploi sur franceinter.fr. À l'étranger, un soulèvement de l'armée matée au Venezuela. 27 militaires arrêtés après avoir pris les armes et désavoué le président Maduro, dont la réélection en mai dernier est contestée à la fois dans le pays et par une bonne partie de la communauté internationale. Demain, l'opposition appelle à manifester pour des élections libres et un gouvernement de transition. Là aussi, c'est une élection qui fait débat, celle de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo. Il devait prêter serment aujourd'hui à Kinshasa, mais la cérémonie a été repoussée. Son principal concurrent, Martin Fayoulou, crie toujours à la fraude électorale, mais il n'est plus soutenu ni par la France, ni par l'Union africaine. À Kinshasa, Anthony Fouchard l'a rencontré pour France Inter.
Dans son grand bureau, en plein cœur de Kinshasa, Martin Fayoulou paraît bien seul. La communauté internationale l'abandonne, et même l'Union africaine, d'abord à ses côtés, a finalement fait machine arrière. Mais celui qui estime être le vrai gagnant de l'élection refuse de s'avouer vaincu.
Je ne me laisserai pas faire, je ne céderai pas. J'ai demandé au peuple congolais de ne pas reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle. J'ai demandé à la communauté internationale de ne pas considérer ces résultats.
Même la France, qui s'est montrée si dure au lendemain de la proclamation des résultats, a pris acte de l'élection de son rival. Alors Martin Fayoulou mise sur ses partisans qui l'attendent en ville, où il doit prononcer un discours.
Ces élections étaient obtenues au prix du sang du peuple congolais. Et cette fois-ci, c'est une occasion pour sortir de cette misère que nous avons. Nous sommes là pour réclamer notre victoire, la vérité des urnes.
Mais dès le petit matin, la police a bloqué tous les accès. Les forces de l'ordre n'ont eu ensuite qu'à attendre que la tension monte. Et cela n'a pas manqué. En fin d'après-midi, des heurts ont éclaté entre partisans de Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais. À Kinshasa, Anthony Fouchard, France Inter.
Il est 8h11, le sulfureux Alexandre Djouri sera-t-il extradé vers la France?
Le tribunal de Westminster à Londres a commencé hier à examiner la demande de la justice parisienne qui voudrait bien le mettre en examen dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Lui conteste et attaque tous azimuts. Sa ligne, Sarah Guibaudot, c'est celle de l'acharnement politique. C'est ce qu'il vous a raconté hier à Londres.
L'audience d'extradition ne donne pas la parole à la personne concernée, mais devant le tribunal, Alexandre Djouri a bien envie de parler aux quelques journalistes présents. L'homme d'affaires marche avec une canne, mais s'exprime avec vivacité et choisit d'attaquer directement le juge d'instruction chargé du financement libyen, Serge Tourner, qu'il a rencontré lors de la perquisition de sa villa de Genève en 2016.
Je lui dis, si je vendais du hashish à Saint-Denis, monsieur Tourner, vous ne seriez pas venu chez moi, vous m'auriez envoyé peut-être une assistante sociale. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Je ne sais pas, on cherche. Vous venez vous expliquer et on voit comment on peut tourner la page. Je lui ai dit non, vous venez comme un juge politique. Je n'ai jamais été condamné ni même poursuivi, à part sous le régime évidemment socialiste. Alors c'est pas parce que je suis né à Saint-Denis, fils d'ouvrier, que je dois être de gauche. On m'en veut aussi pour mes origines.
À l'audience, même angle d'attaque pour la défense, la partialité supposée de la justice française. Il a été question du statut des procureurs, du juge Tourner encore. Pourquoi est-ce que tous les dossiers liés à Nicolas Sarkozy sont confiés à un juge dur, demande un témoin. On a même parlé du syndicat de la magistrature et de l'épisode du mur des cons. Pas facile à traduire pour l'interprète. La juge écoute avec beaucoup de patience, sans laisser transparaître ce qu'elle peut bien penser de ses collègues français.
Et l'audience se poursuivra aujourd'hui avec des auditions de témoins. De la neige en hiver, quoi de plus normal, me direz-vous, sauf quand on reste coincé dans sa voiture pendant des heures, qui arrive régulièrement en France. Pas de panique pour l'instant concernant l'épisode neigeux qui arrive dans le centre et dans le nord de la France. 24 départements placés en vigilance orange, des premiers flocons et quelques perturbations en Normandie et dans le Pas-de-Calais. En région parisienne, la N118 est scrutée comme le lait sur le feu après plusieurs épisodes qui resteront dans les mémoires. Delphine Evenou, les leçons ont apparemment été tirés des blocages des dernières années.
Après décembre 2010,
tôt ce matin, la N118 est en partie bloquée dans le sens Paris-Province.
Après mars 2013,
des centaines d'automobilistes risquent de passer une très mauvaise soirée.
Et après février 2018,
très vite, c'est la paralysie générale.
L'État assure que cette fois, la Nationale 118 est prête pour la tempête. Dès 6h ce matin, vitesse limitée à 80 km/h et poids lourd interdit d'y rouler. Ces derniers mois, des barrières, une trentaine, ont été installées le long de la route pour en faciliter la fermeture rapide en cas de besoin. Et 3 passages supplémentaires ont été créés pour traverser le terre-plein central et pouvoir rebrousser chemin, dont un à hauteur de Bièvre, en Essonne. La commune avait accueilli 600 automobilistes bloqués il y a un an. Et si la pagaille devait encore arriver, la mère Anne Pelletier-Lebarbier est prête.
Dans notre restaurant scolaire, nous avons des denrées en réserve. Les équipements sont également prêts dans notre gymnase, donc des lits, des couvertures. Et nous avons également préparé quelques signalétiques parce que c'était une de nos pistes d'amélioration tirée de l'épisode de février dernier.
Et depuis cet épisode, l'élu a participé à 2 retours d'expérience avec la préfecture pour éviter les images de longues files de voitures abandonnées. Dans les communes voisines comme les équipes de salage sont déjà à l'œuvre et la préfecture de police de Paris appelle à limiter les déplacements routiers.
Les 7 départements ont activé leur plan grand froid pour les sans-abri. Des places d'hébergement supplémentaires sont disponibles dans le Cantal, les Ardennes, la Haute-Marne, le Nord, l'Eure, la Seine-Maritime et le Var. Les transports en commun, il faut les prendre aujourd'hui, surtout quand il neige, les transports en commun à moitié prix. Pour les plus de 65 ans en Ile-de-France, annonce faite par la présidente de région Valérie Pécresse hier soir et sans condition allocation de revenus dans la foulée d'Anne Hidalgo qui a décrété la gratuité pour les seniors et les adultes handicapés les plus pauvres. La mort d'un accordéoniste de génie, Marcel Azola, 91 ans, accompagnateur de Frêle, Piaf, Bécaud, Montand. Mais c'est surtout sa collaboration avec Jacques Brel qui l'a fait passer à la postérité. Vesoul et chauffe Marcel, chauffe, c'était lui, Marcel Azola. Enfin, attention, prodige, il a 20 ans. Stefanos Tsipras, tombeur de Federer ce week-end en 8e de finale, vient de battre l'Espagnol Bautista à Melbourne. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Voilà, un jeune grec aux allures brésiliennes, à la quertaine, si je puis dire. Et ça, c'est de la fraîcheur dans le circuit, hein.
Ah, c'est un look de surfeur, hein, tout simplement, Stefanos Tsitsipas. Le grec était déjà la révélation du tournoi après sa victoire sur Roger Federer. Il en devient la star, tout simplement, celle que personne n'attendait. Mais pourtant, il est toujours là en demi-finale, la toute première de sa carrière en Grand Chelem. Il s'est qualifié en dominant, en effet, l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 4-7. Et c'est un autre exploit de Tsitsipas, puisque Bautista Agut était invaincu cette saison. Il avait remporté le tournoi de Doha avant d'arriver à Melbourne. Il arrivait en pleine confiance, mais aujourd'hui, il a dû céder face à la foule. L'audace, la générosité, peut-être même l'insouciance de ce Tsitsipas qui, à 20 ans, devient le premier grec à se hisser en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Tsitsipas est en train d'écrire sa légende, il vit un véritable rêve, il l'a dit après le match, et dire que ce garçon, il y a un an, pointé à la 91e place mondiale. Aujourd'hui, il est 15e, virtuellement 12e, et ce n'est peut-être pas terminé. Tsitsipas ne veut pas s'arrêter là, et s'il le dit, il faut le croire, parce que avec lui, croyez-moi, tout est possible.
Fabrice Abgral en direct de Melbourne, et on adore ce genre de parcours et de jeunes poulains qui viennent mettre un peu le bazar dans les circuits
un
bien
look
établis.
De surfeur.
Un autre jeune homme cet après-midi, enfin tout à l'heure, face à Rafael Nadal dans l'autre quart de finale, c'est le jeune américain Francis Tiafoe. Lui aussi va tenter de se hisser en haut de l'affiche.
Merci Florence Paracuello.